Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec toujours l'excellent Arnaud Beurdelet, journaliste Midi Olympique. Salut Arnaud.
Salut Raf, bonjour à toutes et bonjour à tous. Poulain Raffut, vous savez, hein, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large, mais surtout en travers. Au menu aujourd'hui, d'abord comme chaque semaine, hein, Raf nous servira son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous recevrons le talonneur du RCT, le RC Toulon, Teddy Bobigny, formé au Racing 92, celui qui est devenu international en novembre 2020, est aujourd'hui un des leaders du paquet d'avant toulonnais. Et il a déclaré en début de saison vouloir être un vrai méchant en signant au RCT. Il va évidemment en parler avec lui. Enfin, dans la troisième partie, place au débrief, hein, façon Poulain Raffut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Avast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous, hein, pour ne rien rater de la saison. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller. Poulain Raffut, saison 6, épisode 32. C'est parti. Allez, première partie, la ruade de Poulain. Raf, la semaine dernière, Antoine Dupont, le demi de mêlée du 15 de France, a encore été désigné meilleur joueur du tournoi des Six Nations. C'est juste la troisième fois, hein, que le Français est ainsi récompensé, et je crois que ça t'a inspiré une petite ruade.
Absolument, Arnaud. Et Antoine Dupont, meilleur joueur du tournoi des Six Nations, comme tu l'as dit, pour la troisième fois. Non pas consécutive, mais la troisième fois quand même. Il n'y a pas de mots pour mesurer son impact aujourd'hui sur le rugby mondial. Et ses pairs comme Maxime Machelot, Rory Cocotte, qu'il a bien connu à Castres en passant par Tawera, Kerr Barlow ou Max Lucu sont tous unanimes, et je les cite. Le plus complet du monde, une régularité unique, injouable, un surhomme, un sens de l'anticipation inné, le meilleur du monde, une machine, bref, il n'a aucun point faible. Ajoutez à ces superlatifs une humilité maladive et cette capacité à dire, à qui veut bien l'entendre, que s'il est le meilleur joueur du monde actuellement, c'est grâce au public, grâce à ses coéquipiers, grâce à ses staffs de Toulouse à l'équipe de France. Et moi, je crois personnellement que c'est en partie grâce à lui, surtout, et à ses parents qui lui ont offert ses bases physiques hors normes et une éducation assez classe, ainsi qu'un cadre teinté d'une passion pour le ballon ovale transmise sans pression, à la sauce, ben vas-y mon fils, régale-toi. Car la difficulté pour les parents d'un jeune talent en devenir, c'est de ne pas transférer sur lui une réussite qu'ils n'ont pas vécue, ses chers parents, ou de lui refiler la peur et l'inquiétude légitime que ça ne marche pas, notamment sur le double projet. Depuis 8 ans maintenant, Antoine Dupont marche sur l'eau, malgré une blessure super bien gérée, et nous régale chaque week-end. Et je ne ressens en fait aucune crainte sur son visage, que ce soit en interview ou sur le terrain, même quand son équipe perd. Rarement. Il a à la fois ce côté animal, prédateur, froid, qui a pour seul but, quand il entre dans un stade, d'atteindre la victoire. Et même quand celle-ci arrive, il reste stoïque, pensant déjà à la prochaine rencontre et au prochain défi. C'est, dans le regard, cette capacité à transcender la peur et ne laisser transparaître aucune émotion. Il fait partie de cette race de champions qui volent sur une carrière magnifique. Car ce petit homme pue la liberté et l'instinct, et c'est devenu tellement rare que ça en fait un sportif et un homme unique. On sent un mec épanoui dans la force de l'âge, libre, je le répète, et doté d'une concentration hallucinante et une maturité pour un jeune homme de 27 ans. Bref, oui, Antoine, c'est sûrement en partie grâce au public, c'est sûrement en partie grâce aux supporters, à tes coéquipiers, que tu es là et que tu en es là. Je te l'accorde, c'est bien que tu le dises et que tu le penses. Ça rajoute à l'humilité, à ton panel de qualité, mais c'est aussi au public, à tes coéquipiers, à tes adversaires et aux supporters que nous sommes de reconnaître que, comme un Dominici, un John Alomou, tu es unique et c'est magique. Et de savoir que tu représentes la France et que tu en es capitaine à l'approche d'une Coupe du Monde à domicile, ben ça rassure. Car oui, nous avons de loin le meilleur joueur du monde. Et en ces temps incertains, ton sourire, ton talent, ta simplicité, eh ben ça fait du bien. Et fais gaffe parce qu'à force de nous régaler, tu risques de passer dans l'inconscient collectif de ministre de l'Intérieur à président. Et je dois t'avouer qu'on aurait bien besoin d'un mec comme toi, aussi inspirant, en ces temps difficiles au sommet de l'État. Mais chaque chose en son temps. Et comme tu le dis si bien, l'objectif assumé cette année, c'est d'être champion du monde. Et je dis oui champion, oui capitaine, oui président.
Allez, deuxième partie aujourd'hui dans Poulain Raffut. Avec nous, on a la chance de recevoir le talonneur du RCT, Teddy Bobigny. Une sélection avec le 15 de France. Le RCT qui s'apprête à disputer un quart de finale de Challenge Cup le week-end prochain. Ce sera contre Lyon. Mais Raf, si tu avais envie de recevoir Teddy Bobigny aujourd'hui, c'est pour d'autres raisons. Et je crois que tu vas nous en dire un peu plus.
Ouais, parcours un petit peu particulier. J'ai lu, en fait, il n'y a pas très longtemps, un article de Teddy. Et je me suis dit, vas-y, ce mec-là, en fait, il faut l'inviter. Salut, Teddy. Dis-moi, dans cet article, j'ai lu qu'en fait, tu as déclaré en arrivant au RCT, je veux devenir un vrai méchant. Alors, pour moi, c'est quoi un vrai méchant? Je t'ai vu évoluer au Racing, je te vois évoluer à Toulon, vous savez, depuis... Et c'est quoi un vrai méchant? Explique-moi, est-ce que tu es trop gentil? Finalement, c'est quoi l'histoire?
Ben, peut-être, ouais, peut-être que, tu vois, ça faisait quelque temps qu'on me reprochait de ne pas forcément être assez, tu vois, agressif dans mon jeu, que j'avais pas forcément des actions assez fortes à ce niveau-là. Et bon, je ne dis pas que c'est le RCD qui va changer ça, mais, Mais tu vois, c'est une culture un petit peu, voilà, une équipe plutôt besogneuse, méchante, tu vois, agressive. Ça avait plutôt du sens à ce niveau-là de rejoindre le RCT. Donc ça fait un peu, c'est un peu étrange à dire, mais ouais, j'avais envie de rendre mon jeu un peu plus méchant, quoi. Voilà,
Ouais,
exactement.
enfin, ouais, je vois à peu près ce que tu veux dire. Tu es passé quand même pas aux côtés de Sarzeski, aux côtés de Camicha, passé aussi devant Camicha avant de partir. Donc, alors, moi, la question que je me pose, est-ce que ce côté trop gentil, il te vient pas du sport que tu as pratiqué plus jeune, le football, non?
Ouais, ou le golf, on peut même aller plus loin, le golf dans ce cas-là. Mais non, ouais. Peut-être que ça vient d'ici. En tout cas, je pense pas être quelqu'un de méchant, donc c'est vrai que c'est pas forcément facile de le développer sur un terrain, voilà, de manière occasionnelle, on va dire.
Alors, bah aussi, tu es supporter du PSG, est-ce qu'il faudrait peut-être pas que tu sois supporter de l'OM pour choper aussi un petit peu, tu vois, en termes d'agressivité, tu vois, ils ont...
Un peu frappadingue, ouais, un peu barjot sur les bancs, ouais, c'est ce que tu veux
Oui,
dire.
un peu, non? Bon, messieurs, avant
Peut-être
de
que ça
poursuivre
vient, ouais.
vos échanges plus sérieusement, je vous propose, Raph, que tu nous dresses le portrait de Teddy. Bobigny version Poulain Raffut, tu vas voir, c'est un peu différent, et c'est maintenant.
Non, mais je vais être sympa, t'as dit, personne ne le sait et tout le monde s'en fout, mais tu es né le jour où je suis arrivé à Paris le 2 septembre 1998. Juste histoire de mettre un gros coup de vieux à Arnaud et toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ont plus de 40 piges. Alors, tu commences le rugby à Meaux sur le tard à 13 ans, tu as fait le chemin classique des mecs en corpo. Tu as commencé en trois quarts, tu es passé en troisième ligne et pilier gauche pour finir talonneur. Alors, petit bémol, ceux qui ont joué en équipe corpo sont partis de trois quarts et qui ont fini à la pile. C'est plus par un développement du ventre qui se transforme au fil de l'âge en cimetière à poulet qu'un développement musculaire et technique approprié au rugby professionnel et celui de talonneur, on va dire. Au Racing, tu joues 9 ans de 2013 à 2021 et tu marques autant d'essais que moi à l'époque au Stade français pendant 6 ans. Et ça, c'est cadeau aussi et chapeau. Bref, footballeur, golfeur, avant de jouer au rugby, tu as un parcours atypique et on va en parler. Tu fais ta place au beau milieu, comme je le disais, Dimitri Sardeschi ou autre Camicha, et tu t'imposes jusqu'à venir taper aux portes du 15 de France. Aujourd'hui, Toulonnais, on sent que ce changement de vie te fait franchir un cap, tu l'expliquais justement, en tant qu'homme et rugbyman. Alors, je ne vais pas en faire des caisses. On te connaît peu en dehors du terrain et du coup, ben, on va faire ta connaissance. C'est maintenant qu'on va apprendre à te connaître. Et une dernière petite chose, je viens de recevoir un petit message de Pierre Mignoni qui me fait savoir que tu es un garçon, donc super dans un groupe, ça se sent, hein, je te l'ai dit, un joueur intelligent et complet. Et il a une petite requête que je t'envoie avant de rentrer dans le vif du sujet. Pierre veut que tu rêves de lui la nuit car il te rentre dans la tête tous les jours. Est-ce que tu es d'accord avec lui?
Ah, je suis d'accord avec ça, avec toi. Je suis d'accord avec lui, je te garantis.
Il te
Ouais.
correspond bien alors, Pierre, il te correspond bien en tant que manager. Toi qui justement voulais franchir ce cap au niveau de l'agressivité, moi j'ai eu la chance de jouer avec et contre Pierre quand même, il a ce caractère qui tempère un peu avec celui de Franck Azéma, mais c'est ce que t'attendais.
Complètement, ouais. Bah, c'est vrai que Pierre est beaucoup plus. Comment dire, plus explosif, je dirais. Voilà, je crois qu'on connaît tous un petit peu de cette manière-là. Donc bon, voilà, c'était un petit peu effrayant quand on connaissait pas, parce que moi je venais pas forcément de ça au Racing, mais c'est vrai que encore que Toto Travers avait un caractère, un tempérament fort aussi, mais c'est vrai que Pierre est particulièrement explosif. Ouais, je crois que c'est le terme.
Tu disais, Teddy, justement, que tu avais signé à Toulon, notamment parce que, alors que tu n'avais que 17 ans, Franck Azéma, déjà à l'époque, avait cherché à te recruter. Tu peux nous raconter un petit peu ça?
Ouais, en fait, bon, c'est une histoire un peu cocasse, mais c'est vrai que depuis que j'étais plus jeune, je crois que c'est aux alentours de 17 ans, ouais, j'étais rencontré en contact à l'issue d'une fin de contrat avec Clermont, où était Franck à cette époque-là. Bon, là, il y avait eu des discussions, etc. Puis, c'était pas forcément une période où je me voyais encore, enfin, voilà, j'avais pas franchi le cap de vouloir partir et de connaître une autre aventure. Donc, bon, voilà, il y a eu ce premier truc-là. Ensuite, c'était Franck, lorsque j'avais 20 ans, donc, deuxième signature s'était représentée à ce moment-là. Donc, bon, encore une fois, ça avait été difficile, puis je ne me voyais pas partir, puis à ce moment-là, voilà, c'était le moment de mon premier contrat professionnel, j'avais envie d'être professionnel au Racing, donc bon, ce n'était pas fait une deuxième fois, et arrive donc la troisième, ben, maintenant il y a un peu plus d'un an, où bon, voilà, la situation au club était différente au Racing, voilà, j'étais un petit peu hésitant à l'idée de partir ou non, et puis est arrivé le moment voilà, de prendre une décision, ça ne s'est pas fait finalement au Racing, donc il a fallu ensuite... Je pense le meilleur point de chute et la petite histoire qui est marrante, c'est que ben, j'ai hésité en fait entre Lyon parce que je voulais parce que Pierre Mignoni à ce moment-là était là-bas et parce que j'avais vraiment envie d'être entraîné par lui tout simplement. Et puis au même moment, donc il y avait Toulon qui était dans une situation un petit peu mitigée et justement Franck arrive à ce moment-là. Donc bon, voilà, j'ai eu les premiers contacts avec Patrice Collazos, c'était très bien passé. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait eu cette attache un petit peu avec Franck depuis quelques années, c'était un petit peu voilà, c'était la belle histoire qui était en train de se créer, quoi. Donc j'ai signé quand c'était Franck. Et puis 3 mois plus tard, j'ai appris que Pierre, qui était à Lyon, rejoint finalement Franck à Toulon. Donc c'était un peu une histoire de. Voilà, les planètes s'alignaient, on va dire.
Tu ne pouvais pas mieux rêver, quoi.
Voilà, c'était difficile de faire mieux.
Sur ce changement, avant de venir sur Toulon et de cette relation privilégiée avec Pierre Mignoni, moi, je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas eu un manque de confiance au moment de ce changement, justement, ou juste avant, de la part des dirigeants du Racing qui voulaient justement garder de Camicha titulaire un peu indiscutable à ce poste? Est-ce que tu as senti ça, ou est-ce que c'était vraiment ton choix, une volonté de franchir ce cap et de partir
Non, alors bon, déjà, c'était une première volonté. Voilà. Ça faisait quelque temps que je me posais la question parce que je sentais que même pour mon développement, ça allait être important. Camille est un très bon copain, donc je me permets d'en parler. Mais c'est vrai que on sentait qu'on était dans une concurrence qui était forte, hein, qu'on se partageait, qu'on commençait à se partager le temps de jeu. Mais c'est vrai que jusqu'à, on va dire, la fin de saison où je suis parti, je jouais pas, enfin, je n'avais pas le rôle que j'attendais, on va dire, en quelque sorte. Donc les éditions sont faites, et puis c'est vrai que là, Camille s'était engagée sur du long terme au Racing quelques mois avant moi. Donc voilà, j'ai senti que c'était aussi le bon moment. On ne s'est pas forcément mis d'accord lors des discussions. C'était un petit peu, je pense, un tout des deux côtés. Donc voilà, on s'est arrêté, ça s'est très bien passé, on s'est serré la main, et puis voilà, j'ai pas d'amertume particulière. Bien au contraire, le club a évolué, et puis moi je suis très content de mon départ aussi.
Alors justement, Teddy, j'ai lu que tu étais un petit peu déçu de ton début de saison avec le RCT, c'est ce que tu disais. Est-ce que finalement, c'est compliqué quand même de changer de club? Parce que c'est vrai que voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui changent de club, que voilà, on en parle, ça remplit les pages des journaux, entre guillemets.
Bien
Mais
sûr.
est-ce que c'est vraiment si difficile de trouver de nouveaux repères, notamment dans un secteur de jeu qui est le tien, la mêlée? On sait que les liaisons sont extrêmement importantes et ça se joue au centimètre. De trouver une espèce de cohérence collective avec des partenaires que tu découvres. Est-ce que c'est ça que tu as voulu dire lorsque tu as déclaré que tu étais un petit peu déçu de tes performances au début de saison?
Ouais, complètement. Je te dis encore une fois. Bon, je ne m'attendais pas à ce que tout soit beau, tout soit rose. Hein. Je savais que ça n'allait pas être facile. Mais je crois que j'ai minimisé un petit peu l'impact que ça allait pouvoir avoir sur ma vie perso, privée, etc. Parce que, en fait, voilà, c'était encore une fois, c'était un moment donné où on voit que ça se passait de mieux en mieux avec l'équipe, etc. Et partir à ce moment-là, tu te trouves dans une équipe où j'en connais certains. Hein. Je pense à Baptiste Orange, voilà, j'avais quelques affinités ici, mais tu n'es pas dans la relation que j'avais connue quelques mois au préalable. Donc, c'était un petit peu étrange. Je reconnais que, voilà, tu vois, même voilà, moi qui étais un petit peu, qui avais envie de faire le maximum, tu n'as pas les repères, tu n'as pas la confiance que les mecs autour de toi ont. Tu sens que tu as envie de prouver, tu as envie de te prouver déjà que tu es au niveau, tu as envie de leur prouver que tu es au niveau. Puis, du coup, peut-être que tu surjoues. Je pense que tu te remets beaucoup en question. Et tu vois, ça s'est ressenti dans plein de petits trucs, que ce soit le lancer, tu vois, où physiquement je me sentais en forme, mais je trouvais pas ma place au milieu de l'effectif. Bon, c'est pas encore chose qui est complètement faite, mais tu vois, je sens vraiment que depuis quelques temps, je veux dire mi-saison, où voilà, tu vois, voilà, quelques performances, quelques matchs font que tu gagnes un peu en assurance, en confiance, et puis voilà, ça va de mieux en mieux, quoi. Je vais pas dire que ça déroule, loin de là.
Non, mais
Mais tu vois, voilà, tu te sens mieux. Et puis c'est vrai que, encore une fois, le changement sportif est énorme, forcément. Mais même le changement de vie perso, tu vois, familial, à tout point de vue, il est plus compliqué, ouais. Il est compliqué.
à l'image du groupe, en fait, ton évolution, elle est aussi à l'image du groupe du RCT qui, voilà, qu'on a l'impression que là, les beaux jours arrivent. Bon, l'hiver au RCT, c'est toujours compliqué, quoi, hein, quand il pleut,
Ouais, que
t'as pas
j'ai
trop envie de sortir.
l'impression, ouais.
Si vous êtes un peu comme des Fidjiens, en fait. Mais moi, la question que je me pose, comme tu en parles, justement, parce que ce changement, il est hyper délicat. Tu pars d'un club aussi qui n'a pas je dirais, une forte notoriété en termes d'affluence de supporters. J'ai joué au Stade Français, donc on a un peu la même problématique à Paris et en Île-de-France.
Bien sûr.
Là, tu arrives, là, tu prends plein fer dans le museau, là, 10 000, 15 000 supporters, chaque match à domicile, à Mayol. Ça aussi, ça change aussi, ça peut aussi foutre la pression aussi, même si ça
Ouais, grave,
mène
grave.
quelques
Ouais.
années de top 14 derrière toi.
Ouais, grave. Puis je me suis dit, mais il y a aussi de l'attente, hein, tu vois. Je sortais inconsciemment, tu sais, d'une saison plutôt aboutie au Racing. Tu arrives ici, voilà, encore une fois, beaucoup d'attentes. Tu es une recrue, voilà, puis tu te mets la pression, en fait, tu as envie de bien faire parce que tu te sens attendu. Comme tu dis, il y a du monde. Tu as la chance d'être dans une région où les gens connaissent le rugby, tu vois, ils sont un petit peu. Voilà quoi, ils te reconnaissent, ils en attendent un petit peu de toi, quoi, tout simplement.
T'étais plus
Donc.
tranquille pour aller chercher ta baguette de pain à Antony qu'à Toulon, tu veux dire, c'est ça?
Non, non, j'aurais pas la prétention de te dire que je suis reconnu à tous les points de rhume, pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que, voilà, il y a dans pas mal d'endroits, les gens sont connaisseurs, ils regardent le match, ils vont au stade. Donc, bon, bah voilà, effectivement, tu es un peu plus attendu, plus observé. Mais on n'est pas des stars internationales non plus, je te
Non,
rassure.
mais peut-être pas, mais en tout cas, tes performances aujourd'hui, elles t'amènent à être dans les papiers, dans le collimateur de Fabien Galthié. Durant le tournoi, justement, tu étais dans la liste des 42 pour préparer les rencontres. Est-ce que tu as le sentiment de ne pas être très très loin de l'équipe premium, justement, par rapport à tes performances? Voilà, je te dis, on t'a vu évoluer. Il y a une montée en puissance, en fait, et puis c'est aussi une prise de responsabilité un peu plus encore au RCT qui t'amène à être aux portes de l'équipe de France et peut-être pouvoir prétendre pour l'équipe de pour la Coupe du Monde. On imagine que c'est un rêve en tout cas d'y participer.
Oui, forcément, ça rêve de gosse. Hein. Je crois que déjà une Coupe du Monde, déjà de manière générale, c'en est un. Après, une Coupe du Monde en France, évidemment. Et puis, c'est vrai que la perspective, avec tout l'engouement qui est autour de l'équipe, parce qu'il ne faut pas se mentir, depuis 3-4 ans, l'équipe de France, enfin, voilà, elle est incroyable. Hein. Elle gagne, elle fait parler d'elle, elle est forte, tout est beau autour de l'équipe de France. Donc, c'est vrai que on a forcément envie d'y adhérer, d'y participer. Après, te dire que mes performances aujourd'hui me permettent d'y croire. Mais en tout cas, je bosse pour, mais je sens encore qu'il y a, et c'est normal, il y a des joueurs devant moi qui ont œuvré et qui ont des grosses pertes de leur côté. Donc, non, je ne me sens pas si proche que ça, pas du tout. Par contre, voilà, il y a une Coupe du Monde, malheureusement, il y a toujours un petit peu des surprises, il y a toujours il y a toujours des pépins, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein, malheureusement, les saisons sont tellement dures, tellement longues. Donc, voilà, écoute, au début de saison, je ne t'aurais pas forcément dit ça. Voilà, la sélection, du fait qu'il y a aussi, il faut le noter, quelques blessures m'a permis d'être appelé. C'était un peu une surprise, mais ça me donne aussi un petit peu envie d'y croire, tu vois. Donc, voilà, je ne sais pas vraiment d'où je pars, mais en tout cas, j'ai l'impression que cet appel, il m'a un peu lancé ma saison aussi, tu vois. Ça correspond un petit peu au moment où je me sentais un petit peu mieux en club. Et puis forcément, je crois que le regard des mecs autour de toi change un peu aussi, quoi. Comment tu vis
Psychologiquement, c'est important.
ça? Ouais, complètement, ouais.
Comment tu vis je l'ai dit, hein, tu es à Meaux, c'est un peu comme Beauvais, tu vois, tu pars de Beauvais,
Ouais,
tu découvres
t'es
le rugby
perdu,
pro,
ouais.
tu commences
T'es
sur le
perdu.
rugby à 13 ans. Donc, si je te pose la question que est-ce que c'était un rêve de gosse de jouer en équipe de France, non, c'était peut-être.
Non.
Non, donc comment on vit justement? Est-ce que c'est du plus, en fait? Comment on se prépare psychologiquement aussi à être rugbyman professionnel quand. On n'a pas fait partie du Sérail, c'est-à-dire tu as fait partie du centre de formation du Racing, bien entendu, mais tu n'as pas fait partie du Sérail d'être élevé un peu. Tu parlais de
Au
Baptiste Serra,
rugby, ouais,
on attendait
la
tous ces
famille de
mecs.
rugbyman, etc. Tout
Ouais.
simplement.
Ouais. Tu n'as pas un cursus à la Antoine Dupont ou Baptiste Serra qui sont allés
Ouais,
avoir le
non,
rugby
rien
dans
à
les mains.
voir. Bien sûr, bien sûr. Écoute, en fait, ce qui est étrange, c'est que depuis que je suis petit, je sais que je veux être sportif. Je sais que je veux être sportif, mais je ne sais pas dans quel sport. Donc, je te garantis pas que j'étais pas assez bon pour être professionnel sûrement dans d'autres sports. J'ai pas cette, mais en tout cas, j'ai la certitude de m'être donné un maximum de moyens dans tous les sports que j'ai touchés. Après. Donc non, l'équipe de France de rugby, à 6 ans, m'a jamais fait rêver, il faut être honnête. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans tous les sports où j'ai touché, j'ai vraiment toujours eu l'ambition d'être bon. Je voulais faire que ça. Donc au moment où j'ai compris à 13 ans que franchement, sincèrement, j'étais mauvais, il faut dire, j'étais très mauvais, mais j'étais un petit peu en avance physiquement, donc ça m'a aidé, quoi. Mais c'est vraiment quand j'ai pris conscience que c'était peut-être le rugby où j'avais la meilleure chance de percer que je me suis mis en tête ensuite un avenir pro dans ce milieu-là, quoi.
Mais pas en trois quarts, pas au niveau des trois quarts. La preuve,
Ah,
Capilite à l'honneur, c'était au niveau du 2 contre 1, c'est comme moi, c'est pour ça qu'on m'a mis à l'aile, tu vois, c'est
et
pas
ben voilà,
non.
et puis enfin bon, je l'ai en tête, mais je revois la tête de mes parents quand ils me voyaient jouer et courir derrière, etc. Et qu'on leur a dit, votre fils, non, ça va pas, en fait, on va le mettre en première ligne. Et je ne vous dis pas la tête de mon père, il a l'impression que c'était un échec. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est si mauvais que ça ou qu'est-ce qui se passe, franchement? Donc,
Monsieur Bobigny, le
non,
rugby commence devant.
mais
Ah,
voilà,
ça part de devant.
écoute, j'ai cultivé ça à partir de 13 ans, c'est tard, mais voilà.
On revient un petit peu sur la saison toulonnaise, Teddy, si tu le veux bien. Vous restez sur 6 victoires en 7 rencontres en top 14, ce qui est quand même plutôt pas mal. Vous êtes repositionné dans le top 6. Il reste 5 journées de top 14. Teddy, on a le sentiment qu'il va y avoir un virage. Il y a un moment où ça va basculer du bon ou du mauvais côté. Vous êtes plutôt bien lancé. Tu le situes où, toi, ce virage-là?
Ce virage, il est difficile. Déjà, je crois que le virage, il est déjà de continuer à gagner chez toi. Parce qu'on n'a pas forcément fait au début de saison. Donc, je crois que c'est un peu ça qui rythme. Je crois qu'on a, on a trois réceptions. On a trois réceptions, donc deux extérieurs. Voilà, je n'ai pas encore regardé que toutes les équipes, ce qu'elles allaient rencontrer. Ce qui est sûr, c'est que, bon, en étant dans les six, normalement, si tu continues de gagner chez toi et que tu vas faire, en tout cas, je ne te dis pas un coup, mais que prendre des points à l'extérieur. Tu te mets dans une bonne position. Après, le problème, c'est que le championnat est tellement dingue que tout le monde est capable de gagner tellement n'importe où que. Ouais, je ne sais pas à quel moment on va être le virage, mais tu vois, je crois qu'on reçoit Bordeaux, qui est un prétendant au top 6 en dernière rencontre. Et il est fort possible de croire que ça va être sur ce match-là que ça va basculer ou non. Hein.
Et puis il y a ce quart de finale aussi contre Lyon, là justement ce week-end, à croire que ces deux clubs ils se quittent plus, hein, tu vois, l'espèce de tournée
C'est dingue,
des
c'est dingue.
managers et tout. Et c'est Baptiste Couillou qui disait samedi dernier, après la qualification de Lyon contre le Stade français, pardon, que Toulon était l'adversaire parfait pour les Lyonnais. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Est-ce que explique-nous.
Tu poses une question sensible, Raphaël. Parce qu'on l'a forcément tous lu. Écoute, bon, c'est difficile, je n'ai pas envie de réagir à ça, mais bon, voilà, je pense qu'on verra samedi. Je ne sais pas si on est l'adversaire idéal, mais en tout cas, j'espère qu'on va assister à un beau match. Voilà.
Ah mais il dit adversaire parfait parce que vous venez de les battre et qu'ils ont du coup la motivation qui est toute trouvée probablement. Vous venez
Bien
d'aller
sûr, bien
gagner
sûr.
chez eux. Je pense que ça va être un levier supplémentaire. Cette Challenge Cup, Teddy, c'est toujours une compétition un peu, comment on va dire, qui pose question pour les clubs.
Ouais.
Est-ce que pour toi elle est bonne pour la dynamique de groupe ou est-ce que c'est finalement un petit caillou dans la chaussure parce que bah, t'engendres de la fatigue, tu risques des blessures? C'est quoi ta position par rapport à ça? Parce que autant la Champions Cup que tu jouais avec le Racing, voilà, la question elle se pose pas, tu joues tous
Tu
les
la
matchs
joues,
d'un
bien
fond point
sûr, ouais.
barre. La Challenge Cup, bon, elle intéresse quand même un peu moins, même si c'est les Lyonnais qui le disent, hein, puisqu'ils ont vécu un titre la saison dernière. C'est quand même une chouette aventure, mais tu peux y laisser des plumes.
Ouais, bon déjà, je pense que Lyonnais, c'est important pour eux hein, l'année dernière, ne serait-ce que déjà quand tu la gagnes. Bon, déjà, au-delà de, je pense, de l'aventure humaine et sportive, tu te qualifies pour l'année suivante en Champions Cup. Donc déjà, c'est important. Après, pour te dire, moi, bah, du coup, je découvre un petit peu cette atmosphère-là. Et je dois reconnaître qu'à Toulon, tu vois, bien qu'il y ait des rotations, etc., le club, je crois, a le mérite de la jouer sérieusement, tu vois. Parce que je crois que le club, déjà de base, a besoin d'un titre depuis le nombre d'années qu'il n'en a pas eu. Donc, on la joue. Voilà, la vérité, je crois que dans les compos ou même la manière dont on la joue depuis le début de la saison, ça se voit, tu vois. Et je pense que ça, on peut en être fier. Après, c'est sûr que nos têtes ne sont pas plus en Coupe d'Europe qu'en top 14, tout simplement parce que je te dis, la mentalité inculquée par Pierre et Franck, c'était de gagner sur tous les tableaux. Donc non, non, on va la jouer et je te cache pas que bon, c'est toujours frustrant de rencontrer une équipe française en quart de finale, c'est voilà forcément. Mais bon, on la joue parce qu'on a envie d'aller au bout, parce qu'on a envie de gagner un titre, parce que je crois que les supporters ont envie, besoin. Et puis parce que je vais pas te mentir, moi des titres, je n'ai pas gagné beaucoup. J'ai pas mal
J'allais
perdu.
venir justement, tu es sur une finale de Champions Cup avec
Ouais.
le Racing, donc c'est cette année quoi.
Voilà, exactement ça. J'ai pas vraiment gagné beaucoup, j'ai plus perdu en finale, donc. Donc non, on a sincèrement envie de la jouer et sans, voilà, sans prétention, là, mais je crois même très envie de la gagner.
D'ailleurs, juste, je rebondis, je n'avais pas prévu de te poser la question, t'as dit, mais cette finale de Champions Cup perdue, c'est un traumatisme quand même?
Ouais, pire souvenir de rugby,
Ah ouais?
pour te répondre. Ouais. Ce qui est étrange, c'est que j'ai mon. Bah, je vais pas dire, si mon meilleur souvenir de rugby, c'est la demi-finale gagnée contre les Saracens, 78e minute. Bref, l'arena qui explose, Vakatawa qui marque, bref, Rouhanimov qui marque. Plus beau souvenir de rugby. Franchement, ce que j'ai vécu ce soir-là, c'était incroyable. Mais 3 semaines après, j'ai vécu le pire. Voilà. En tout point de vue, un hein, match à huis clos, donc pas de famille, à l'étranger, tu le perds, alors tu dois le gagner, je pense, 9 fois sur 10, et puis ben, tu t'en
C'est
veux à
ça le plus
mourir, quoi.
frustrant, non? Sur cette finale. C'est peut-être ça le plus frustrant. C'est de savoir que cette finale, vous devez la remporter et que vous ne
Non,
la remportez pas, quoi.
autant les deux précédents qui avaient connu le club, tu vois, je brûle la ligne que je n'ai pas participé. La deuxième, j'étais en tribune blessé. Et puis, mais autant la troisième, objectivement, je pense que c'était la bonne, tu vois, je pense vraiment. Donc, je crois que c'est un souvenir un peu dur pour tout le monde. Bon, pas plus pour moi que les autres, mais franchement, ouais, elle est très dure. Tu vois, moi, j'avais 21 ans. Enfin, bon, C'était une saison un peu en or, quoi. Tu vois, tu te retrouves un petit peu en finale de Coupe d'Europe. C'est la première saison où j'étais à fond dedans. Et ouais, franchement, tu t'écroules là aussi près du truc. C'était compliqué.
Ça va bien se passer, cette année, je pense que ça va être pour toi la bonne. Qu'est-ce qui, selon toi, va faire justement le déclic? Il y a toujours des déclics, ce que j'appelle le supplément d'âme pour gagner les titres. Est-ce que Toulon, justement, est prêt? Voilà, c'est un groupe qui avance, qui prend aussi en maturité. Est-ce que, selon toi, Toulon, alors tu vas pas me dire non, hein, c'est la question conne, je sais, c'est la dernière. Voilà, je suis fatigué, j'ai 8 heures de train, voilà. Mais est-ce que vous êtes prêt?
Écoute, si on est prêt, j'ai envie de te. Bah, forcément, je vais te répondre oui, en fait, forcément. Mais je te dirais en tout cas que tu vois, depuis Toulon, tu l'as dit tout à l'heure, Toulon avait l'habitude de malheureusement mal débuter ses saisons et bien les finir. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Bon, justement, pas super bien, pas aussi bien fini, je crois qu'il aurait espéré. Mais putain, tu vois, je crois que c'est. Charles le dit beaucoup, Charles Lyon le dit beaucoup. Tu vois, il y a eu du turnover, forcément, il y a eu des départs, des arrivées. Mais le groupe est resté sensiblement le même. Donc, je pense que les mecs ont une amertume un peu bah, forte, imposante, parce que forcément la fin de saison n'était pas celle qu'ils voulaient, notamment par la défaite en finale. Mais putain, tu vois, j'espère que bah, par un petit peu d'enthousiasme, un petit peu de bah, les expériences de chacun, tu vois, je pense à YCA qui va du Stade français, qui a gagné déjà, qui a gagné des titres, bah, j'espère que je pourrai apporter aussi un petit peu ma pierre à l'édifice, tu vois, je pense à Payog, tu vois, qui est champion de France l'année dernière, qui arrive, qui apporte un petit peu cette fraîcheur, cette
Cette
envie de titre, hein,
expérience
tout
aussi.
simplement. Donc, je ne sais pas si c'est un déclic, mais en tout cas, je crois que nos dernières prestations, bien qu'elles soient, elles ne sont pas gagnées facilement, elles te poussent à croire que, on est sur le bon chemin, quoi.
On a quand même l'impression, vu de l'extérieur, que la montée en puissance, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, et que vous risquez, si vous êtes dans les six, d'être sacrément pénible quand même sur les phases finales, d'autant plus que vous êtes sacrément épais au niveau de votre paquet d'avant et même derrière d'ailleurs.
J'espère qu'on y sera. Écoute, déjà, j'espère qu'on y sera. Et puis, j'espère que bah, une fois, si on y est, bah, écoute, on y fera quelque chose, quoi. Parce que malheureusement, je sais ce que c'est d'aller en phase finale et de finalement pas gagner grand-chose. Donc, il faut y aller pour quelque chose, quoi.
Eh
Voilà.
bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Teddy. On va en conclure avec cette deuxième partie. Alors, Teddy, tu ne nous en voudras pas, mais c'est une coutume, une tradition dans Poulain Raffut. Le mot de la fin, il n'est pas pour l'invité, non, il est pour la star de l'émission, pour Raphaël Poulain.
C'est cadeau. Non, Teddy, moi, ça me régale, en fait, parce que je me disais en te regardant, ça fait à peu près 3 ans que j'essaye d'inviter Charles Olivon dans cette émission. Je sais qu'il a pris, il ne peut pas, voilà, mais je me dis que j'ai la chance d'avoir ben, le joueur qui lui ressemble le plus. Alors, peut-être les tibias en rond, mais tout aussi gaillard, tu vois, sauf que vous avez un peu la même gueule. Voilà, donc je me suis dit que j'avais un peu du Charles en toi. Teddy, j'étais ravi de t'avoir parce que je te vois évoluer depuis des années au Racing. Tu sais que ce n'est pas mon club de cœur, même si j'y ai passé
Bien
une année,
sûr.
j'ai fait un match. Mais je t'ai vu évoluer et je te souhaite en tout cas la meilleure des fins de saison possible et qu'elle se termine au mois de novembre, surtout, Teddy. Tu vois, qu'elle se termine pour toi au mois de novembre. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Tu vois, 24 ans, tu vas pas me dire non non plus, c'est encore une question conne, mais ta saison, elle peut se terminer au mois de juin sur un titre et elle peut surtout se terminer au mois de novembre.
J'ai envie de te dire que j'ai envie d'y croire et que j'espère que tes paroles vont se réaliser. On verra d'ici là.
On te le
Mais
souhaite. Et donc, si tu y vas, moi, je veux juste faire un duo et tu m'amènes Charles Olivon. Comme ça, au sortir de la Coupe du Monde, vous levez le trophée et on vous invite tous les deux. Voilà.
c'est avec plaisir. Et d'ailleurs, Raphaël, je finis là-dessus, mais c'est vrai que bon, tu t'en souviens sûrement pas, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à la Cana quand tu avais fait ton intervention. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens.
Si, il pleuvait.
Mais je l'ai en tête là parce que je crois que comme beaucoup, elle nous avait un peu bousculé. Donc voilà, c'est pour te dire, on s'est présenté, mais je t'avais déjà rencontré à ce moment-là.
2013, c'est dit, je me souviens encore de la salle et je me souviens de votre entraîneur. Rappelle-moi juste son prénom, parce que j'étais
Romain
là. Parbaye.
Parbel.
Romain, avec qui j'ai fait même pas mes classes, mais que je badais un peu, moi de 80 et lui de 77-78, qui est plus de la génération d'Arnaud, qui a plus de 48 ans. Mais voilà, cadeau.
Merci, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, Teddy, c'est tout le mal qu'on te souhaite hein, de connaître une belle fin de saison avec le RCT. Un grand merci, un gros merde pour le quart de finale contre Lyon ce week-end en Challenge Cup. Et nous, on va enchaîner, Raph, avec la troisième partie de Poulain Raph. Allez, troisième partie dans Poulain Raffut. Raph, on vient de passer un très bon moment avec Teddy Bobigny, ancien joueur du Racing aujourd'hui au RCT. On a parlé évidemment un petit peu de l'équipe de France et de ses chances de participer à la Coupe du Monde. On l'a trouvé très lucide, Raph, sur ses chances. On sait que Fabien Galthié est très attaché à la hiérarchie, au ranking, comme il dit, de ses joueurs. On sait que voilà, des garçons comme Julien Marchand et Atom Uwaka sont quasiment assurés d'être au mondial. Tu crois en ses chances à Teddy Bobigny ou tu penses que finalement, comme lui, il faut être lucide et ça se jouera probablement en cas de pépin physique d'un ou deux joueurs situés devant lui, dans le ranking de Fabien Galthié.
Tu l'as dit, je pense que moi j'ai trouvé une belle maturité en tout cas chez ce mec de 24 ans et qui est tout à fait lucide, tu l'as dit, sur sa position, en tout cas sur la hiérarchie qui est annoncée par Fabien Galthié depuis 3 ans maintenant. Marchand est devant, Movaca est devant, il y a Bourgarit aussi qui est devant.
Il y a Gaëtan Barlow également.
Barlow aussi, joueur de case, donc il est tout à fait lucide. Maintenant, on le sait très bien, plus en avance, on en a beaucoup parlé depuis 6 mois, que tous ces mecs en fait qui sont au top 14, Coupe d'Europe et cette Coupe du Monde avec le tournoi qui vient de se passer et la tournée de novembre, il y a beaucoup de blessés. Donc bien sûr que lui va jouer crânement sa chance, c'est à lui d'être bon aussi en club. Il est en train de franchir un cap avec Toulon, donc on peut que lui souhaiter un titre en fin d'année qui l'amènerait aussi à pouvoir aussi prouver qu'il est capable aussi de peut-être bousculer la hiérarchie. Mais tu le dis aussi, Fabien a ses joueurs, a son équipe type aussi en face, donc ce sera compliqué mais pas impossible.
Non, en tout cas, on a passé un très bon moment avec Teddy Bobigny, j'allais dire un gamin, c'est un gamin pour moi, je sais pas si je pourrais être son père, mais en tout cas, il a 25 ans, enfin bientôt 25 ans, et on le trouve on l'a trouvé avec beaucoup de maturité, beaucoup de lucidité, et en plus, une bonne touche d'humour, donc c'était un vrai bon moment, n'est-ce pas Raph ?
Ah ouais, c'était hyper agréable, et comme tu l'as dit, hein, tu vois, à 24-25 ans… Je trouve un mec qui est bien dans ses lattes, bien dans ses baskets avec ce nouveau challenge. Et puis, je te dis, c'est pour ça que j'ai posé cette question. À 13 ans, tu commences le rugby, donc tu n'as pas non plus la pression, même si son père était très déçu qu'il passe de trois quarts à talonneur. Enfin, moi, je trouve que voilà, sa carrière, elle est à l'image du mec. On a découvert le mec, on connaissait le rugbyman. Très bon mec. Moi, je le situe un peu au milieu du bus, tu vois. Je l'imagine un peu juste à la sortie de la deuxième porte, là. Voilà.
Allez, Raph, on a évidemment un peu parlé du Racing avec Teddy Bobigny. On va encore indirectement en parler dans la troisième partie. Benjamin Falb, dont le transfert au Racing 92 en 2010, depuis le Bayern, avait fait couler beaucoup d'encre, notamment en raison de l'indemnité de transfert payée par le club francilien. On parle à l'époque de 500 000 euros, un peu plus même. En tout cas, Benjamin Falb a annoncé prendre sa retraite et je crois que tu voulais lui rendre hommage.
Ben oui, parce qu'il avait eu un sacré parcours, on l'a vu avec Laurent. En équipe de France, 14 sélections, et puis après, bah, des pépins physiques qui sont aussi accumulés. C'était un petit peu une Ferrari, et notamment, on peut le lire dans l'équipe, voilà, son interview qui est criant de vérité. L'après-carrière, elle est très, très compliquée, surtout quand on ne choisit pas sa fin. Donc, je pense qu'il faut rendre hommage à Benjamin qui a eu une carrière pas complète, et c'est ce qui est dommage, parce qu'on a toujours attendu, un petit peu comme la mienne, mais bon, lui est allé en équipe de France, lui, justement, a pu briller, notamment au Racing, comme tu l'as dit, à Bayonne, mais c'est vrai qu'il a cette fin de carrière que beaucoup vivent, en fait, on ne choisit pas ses fins de carrière, à l'image de Pierre Rabanan, de Jérôme Fiol, de Diego Dominguez, pour les avoir côtoyés, les mecs ont fini assis sur un bouclier, et puis, ben, pour la plupart, on ne finit pas avec un titre. Lui s'arrête aujourd'hui. Il a un super projet aussi. Je pense qu'il a un camion dans lequel il met tous ses ustensiles en fait de musculation. Et donc, il va être préparateur physique. Il va se déplacer dans les clubs pour faire du coaching aussi individuel. Donc, il a un super projet. Et je pense que voilà, il fallait le rendre un peu rendre à César ce qui est à César. C'est des joueurs qui ont brillé dans le top 14, qui ont brillé en équipe de France. Malheureusement, qui terminent sur une note qui n'est pas celle qu'on attendait. Et on lui souhaite bon vent pour l'avenir.
Allez Raph, pour conclure, un coup de gueule contre le calendrier de la saison prochaine. La LNR a officialisé hein, justement ce calendrier. Le top 14 disputera donc 3 journées de championnat avant le début de la Coupe du Monde. Va s'arrêter, laisser place à toute la compétition du Mondial et reprendra tout juste au lendemain de la finale de cette Coupe du Monde. Un vrai saucissonnage encore de la saison de top 14. Et je crois que ça t'a interpellé, hein. C'est ça Raph ?
Je pense qu'on s'y attendait, on est parti sur une saison à rallonge qui a commencé fin août 2022 et qui va terminer en novembre 2023. Moi j'ai une grosse pensée sur les grosses écuries, hein. Je pense notamment à La Rochelle et surtout à Toulouse qui, même si elle survole ce championnat et qu'elle est première et qu'elle est encore en lice pour la Coupe d'Europe avec le quart de finale, ça va être très très compliqué. On a vu des mecs qui ont explosé en vol. C'est Jelonge qui se dit qu'il sera peut-être, qui a envie d'être là justement pour la Coupe du Monde. Mais voilà, est-ce qu'on pense véritablement aux joueurs ? Est-ce qu'on pense véritablement aux clubs, justement, qui sont amputés de leurs internationaux ? Je ne pense pas. Donc, the show must go on, hein, comme on le dit, hein, la Coupe du Monde, bah, tout le monde va fermer sa gueule, et puis on va jouer, et puis voilà, on va tous se focaliser sur la Coupe du Monde, sans véritablement penser qu'en fait, ces 3 premiers matchs, c'est ceux qui, justement, du bas de tableau, ou qui joueront le bas de tableau, vont en profiter pour aller grappiller des points, comme à chaque année de Coupe du Monde. Donc, ça va être compliqué pour les grosses écuries, en tout cas sur ces 3 premiers matchs. Et après, la Coupe du Monde arrivera en espérant que les joueurs aussi, pour conclure, qu'au sortir de cette Coupe du Monde, ils aient quand même un bon mois et demi, deux mois à foutre dans le formol. Mais bon, les clubs vont avoir besoin d'eux. Donc, ça va être une année très, très compliquée pour les clubs leaders, en tout cas.
Voilà, c'était Poulain Rafut aujourd'hui. On a terminé sur un petit coup de gueule, mais c'était une bien belle émission. Raph, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit. J'allais dire même heure, mais vous savez que le podcast est à consommer sans modération à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. À très vite.
Merci beaucoup Arnaud et merci à Sébastien Petit qui a réalisé cette émission et très très bon week-end rugby à la semaine prochaine. Salut.